Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Alors on continue avec Alan Astro.
Oui, nous continuons donc à lire ce livre, donc je le rappelle le titre, donc Autour du Yiddish, de Paris à Buenos Aires, Alan Astro, donc dans les classiques Garnier. Donc Alan Astro a choisi de présenter le Yiddish, les textes, enfin les œuvres Yiddish, dans des lieux qui ne sont pas les grands centres yiddish que sont la Pologne, la Russie et donc toute l'Europe de l'Est, mais de prendre justement des auteurs yiddish dans des lieux moins connus. Donc la dernière fois, nous avons présenté les écrivains de Paris. Et cette fois, nous allons passer donc en Amérique du Sud pour d'autres écrivains. Alors, Alan Astro est un grand connaisseur de la littérature yiddish d'Amérique du Sud et d'ailleurs de la littérature d'Amérique du Sud en général. C'est quelqu'un qui connaît très bien le yiddish, qui connaît l'espagnol et qui connaît aussi le français. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai remarqué qu'il savait très bien le français en lisant finalement ce livre. Il avait animé un atelier en 2004 autour de la littérature yiddish en Amérique du Sud à Strasbourg. Et voilà donc ce livre. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de l'Amérique du Sud, le lieu le plus connu étant l'Argentine. Hein. Donc il y a eu en Argentine... un épisode très, très original, c'est-à-dire l'installation de fermiers. Alors, c'est le premier chapitre de la deuxième partie de ce livre qui s'appelle « Les fermiers juifs d'Argentine ». Donc, Alan Astro présente de façon tout à fait intéressante et très, très concise l'aventure de ces fermiers juifs. Alors, c'est le baron de Hirsch qui a eu l'idée, donc fin 19e, d'installer en Argentine des fermiers, donc des gens venant évidemment d'Europe de l'Est, où ils vivaient dans une vie misérable. Et ça s'est appelé la Yiddish Kolonisatsie Associatie. Alors évidemment, le mot colonie ici veut dire simplement des installations agricoles. L'Argentine était prête à accueillir pas mal d'immigrants. Hein. On dit que les Argentins descendent des bateaux. Mmh. Et donc, c'est une population qui vient un peu de partout. Et donc, ils étaient prêts aussi à accueillir des Juifs. Et donc, le baron de Hirsch a consacré beaucoup, beaucoup d'argent à installer donc, ces colonies. Mais elles étaient très loin de Buenos Aires, à peu près 400 km dans la Pampa. Et la vie était très, très difficile. Et Alan Astro étudie bien cette aventure. Et lui, il impute l'échec de ces colonies à la mauvaise gestion par les responsables qui étaient extrêmement désagréables avec ces pauvres colons qui arrivaient, qui ne connaissaient pas trop la culture, qui avaient beaucoup de mal et qui étaient aussi soumis à toutes les intempéries, également aux sauterelles. Donc la vie n'était vraiment pas facile pour eux. Ceci dit, à l'aube de la Première Guerre mondiale, donc en 14, il y avait plus de Juifs en Argentine qu'en Israël. C'est ce que fait remarquer Alan Astro. Mmh. En 1908, il y en avait 16 000 et donc en 14, il y en avait plus. Mais cet échec est un échec relatif parce qu'en fait, les gens allait beaucoup, était attiré par les grandes villes et en particulier par Buenos Aires. Hein. Donc, certains débarquant, soi-disant, pour aller dans les colonies, n'allaient même pas dans les colonies et restaient à Buenos Aires. Et d'autres avaient, s'installaient quelques années, puis la vie était tellement dure qu'ils allaient vivre à Buenos Aires, où ils allaient envoyer leurs enfants faire leurs études et les enfants ne revenaient pas. Ce qui fait que, même si il n'y avait pas beaucoup de gens dans les colonies, en 1920, il y avait quand même 150 000 juifs vivant en Argentine. Et ensuite, il y a eu une arrivée de juifs allemands, de juifs fuyant le nazisme. Il y a quand même, l'Argentine en a quand même accueilli 45 000, dont certains dans les colonies. Donc moi, j'ai visité ces colonies juives il y a déjà un bon nombre d'années, avec Loïka, justement.
Voilà, Valisque.
Avec Valisque, avec l'association Valisque, avec Loïka. Alors, c'est très intéressant parce que c'est resté, en fait, figé. C'est-à-dire que il n'y a quasiment plus de juifs qui habitent là. Les seuls juifs qui habitent, ce sont justement des juifs allemands arrivés en 38, qui parlent encore allemand. J'en ai rencontré quelques-uns âgés à l'époque. Et ceux-là sont devenus très riches. Ils ont d'immenses troupeaux. Leurs enfants vivent en Israël, aux États-Unis.
À la fois.
Un peu partout, oui, absolument. Et eux sont là, ils gèrent d'immenses troupeaux et d'immenses richesses. Voilà. Et les autres qui sont encore dans ces colonies sont en fait des non-juifs. Oui, je voulais dire qu'aussi que... Voilà, on a l'impression, quand on visite ces colonies, de voir un peu les kibboutzim tels qu'ils pouvaient être au moment où on les a installés. Hein. C'est le moment aussi de ce rêve de juifs retournant à la terre, hein, qui est un peu dans le monde entier, qui est évidemment en Israël, hein, les Khaloutsim, qui est, qui n'était pas encore Israël, bien sûr. Hein, là, on est fin 19e, début 20e. Et puis également
en URSS.
Déjà même avant la Révolution, il y avait déjà des colonies juives, alors en Crimée. Et ensuite, il y a eu l'idée de Staline d'envoyer ces juifs au bureau Bidjan. Et le bureau Bidjan a à peu près échoué autant que les colonies d'Argentine. Mais en tout cas, ce rêve de juifs retournant à la terre est vraiment présent un peu partout. Voilà. Et donc, je citerai aussi ce que cite évidemment Alan Astro, que Rochel Auerbach, la célèbre Rochel Auerbach, la survivante du ghetto de Varsovie, est allée visiter ces colonies en 1950 et elle a déjà dit que c'était les derniers des Mohicans, c'est-à-dire qu'il y avait, déjà presque plus d'habitants juifs dans ces colonies. Nous avons quand même parlé yiddish d'ailleurs avec quelques vieux...
Mais pas les Allemands alors.
Non, alors non, pas les Allemands. Il y avait les Allemands avec qui j'ai parlé allemand et puis il y avait aussi quelques encore, deux, trois personnes anciennes. Et c'est vrai qu'il y a des non-juifs qui prennent en charge ces lieux, qui essayent de les reconstituer, puisque dans chacune de ces colonies, il y avait des bibliothèques, il y avait une petite synagogue, il y avait des lieux de réunion, et aussi on avait des cimetières avec des petits, c'était très émouvant, des petites tombes d'enfants, puisque la vie était tellement dure, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient au début.
D'épidémie, de maladies.
Voilà. Et donc cette colonisation a été rendue célèbre par un auteur qui s'appelle Garchounov, qui a écrit Le Gaucho juif, le Gaucho, Yiddish Gaucho. En fait, les juifs n'étaient pas des Gauchos, mais enfin, il y en avait quand même quelques-uns. Et voilà, donc, cette colonisation juive que présente très bien Alan Astro avec les auteurs qui l'ont illustré. Par exemple, il cite un auteur qui s'appelle Ruben Dario, qui est un auteur nicaraguain, qui a écrit une ode à l'Argentine, Canto a la Argentina, composée pour le centenaire de l'indépendance en 1910, et qui célèbre l'implantation de fermiers juifs, mais qui est en espagnol. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'espagnol, vaut mieux pas. Je vais vous lire la traduction de Alan Astro. « Chantez, juif de la pampa, grand gaillard à l'allure rude, douce Rebecca aux yeux francs, Ruben aux longues mèches, patriarche aux cheveux blancs et épais comme des crinières de cheval. Chantez, chantez, vieilles Sarah et Benjamin adolescents, avec la voix de votre cœur, nous avons trouvé Sion. Voilà, donc c'est toujours le rêve de la terre promise aussi, ouais. Hein, donc qui est...
Le lait et le miel, mais voilà. Sauf qu'il ne coule pas.
Oui, mais bon, les Juifs, les Juifs en Argentine ont quand même bien vécu. D'abord, ils ont évidemment échappé à la Shoah. Et puis ensuite, ils ont eu une vie assez agréable, culturelle. C'est vrai que l'Argentine a aussi abrité les deux grands noms du Yiddish en France, c'est-à-dire Yitzhak Niborski et Raphaël Goldwasser. C'est vrai. En 1914, il y avait 300 000 juifs encore en Argentine. Maintenant, ils ont aussi subi
l'antisémitisme.
Oui, et puis
la dépression, les problèmes financiers.
Oui. Voilà, donc on va peut-être illustrer par une chanson, cette fois de Loïka, avec qui j'ai visité ses colonies.
Voilà, qui connaît tout ça comme sa poche, puisqu'elle est originaire d'Argentine, bien que ce ne soit pas là qu'elle a grandi et qu'elle a fait ses études. Enfin, elle c'est vraiment un citoyen du monde. Alors j'ai choisi deux chansons qu'elle interprète sur ce disque, donc qui s'appelle « The Pulse of Yiddish Tango ». Et la seule chose qu'on puisse reprocher effectivement au livret, c'est qu'il n'y a pas du tout le texte en yiddish. Il est très beau. C'est le label Zorn, le label Tzadik dirigé par Zorn, qui est formidable, aussi en présentation, en qualité, le choix des musiciens qui sont sur ce label, c'est vraiment formidable. Mais je ne sais pas si c'est une contrainte imposée par le label ou si c'est son choix, elle. Il n'y a pas les textes en yiddish, il n'y a que en traduction en anglais. Alors, j'ai choisi la chanson qui s'appelle, donc c'est toujours des tangos et c'est toujours déchirant, évidemment, qui s'appelle « Vergess mich nicht, forget me not ». Pas « don't forget me not ». Donc c'est « moi je t'aime » et puis « s'il te plaît, je t'en supplie, ne m'oublie pas ». Voilà, mais chanté magnifiquement par Loïka, qui est accompagnée par deux musiciens, Juan Lucas Eisenberg au violon et Gustavo Beitelmann au piano.
Kleine Wörter, Gedenk, sei ich. Vergiss mich nicht. Ich soll dir vergessen, es kann keinmal nicht geschehen, weil deinem schuldig Bahnen wird in mein Herzen sein. Du mess mir heilig glauben, ich geb mein Ehrenwort, kein andere wird keinmal vernehmen.
Vergess mich nicht, tu as compris hein, qu'elle disait ça, qu'elle lui suppliait de ne pas le vergessen. C'est magnifiquement interprété, cette voix qui est puissante, qui monte. C'est déchirant, quoi, autour d'une toute petite histoire d'amour, de rien du tout.
Oui, oui, il y a des écrivains et des chanteurs aussi,
oui.
En Argentine en particulier, Loïca justement, voilà encore une personne qui nous vient d'Argentine, Loïca Tchakis qui vit...
Qui chante aussi en espagnol d'ailleurs.
Oui, et qui vit maintenant à Strasbourg et qui s'occupe de l'association Valisque qui organise des voyages dans le monde entier. Alors, un autre chapitre, c'est la littérature yiddish de Cuba. Alors là, on entre vraiment dans quelque chose qui est peu connu. Donc, Alan Astro fait remarquer que l'immense majorité des Juifs qui partent pour le Nouveau Monde partent pour les États-Unis. Un certain nombre va en Argentine et il y en a très peu qui vont à Cuba, mais il y en a quand même. Donc, ce qui fait que Cuba a accueilli 16 000 personnes, 16 000 Juifs, lors de la Deuxième Guerre mondiale en particulier, parce que c'est là que les Juifs ont essayé d'aller, même s'il y a eu un épisode tout à fait tragique, c'est le bateau Saint-Louis, un navire bondé de Juifs allemands que les autorités cubaines refusèrent de laisser débarquer. Donc ils sont retournés en Allemagne et ils sont péris là-bas. Mais il y a eu quand même des personnes qui ont pu s'installer là-bas. Et là aussi, ça recoupe notre histoire personnelle, puisque nous avons un grand-oncle, Arnold, l'oncle de maman, qui, lui, a pu s'installer à Cuba. Bon, tous ces Juifs qui étaient à Cuba sont partis en 1959, lorsque Fidel Castro a pris le pouvoir, et ils se sont installés aux États-Unis.
En Floride, en général.
Voilà, donc en 1925, il y avait 8000 juifs, dont 5200 yiddishophones, qui ont tout de suite créé des journaux, par exemple Havaner Leben. Et Alain Astroff fait remarquer que chez ces juifs yiddishophones, l'inquisition est très présente, c'est-à-dire s'installer dans un pays où l'on parle espagnol et qui a été sous domination espagnole réveille les souvenirs de l'inquisition. Ah oui. Effectivement, l'inquisition avait d'ailleurs été appliquée dans tous les pays que les conquistadors avaient occupés, avaient conquis, et donc aussi à Cuba. Mais enfin, bon, évidemment, là, on est bien après, mais ce thème est présent. Et alors, là, l'Espagne retrouve un peu une meilleure réputation en 1931, lorsqu'il y a la guerre civile espagnole. Et Astro rappelle que 20% des gens qui sont partis combattre dans les brigades internationales, donc il y a eu 40 000 personnes dans les brigades internationales, dont 20% étaient juifs. Mmh. Il rappelle aussi que Zeitlin a passé quelques mois à la Havane. Il est allé aux États-Unis en 1939 pour monter sa pièce Esther Kay. Il a essayé de faire venir sa femme et son fils, il n'a pas réussi et donc toute sa famille a péri dans la Shoah. Et lui-même a dû quitter à un moment les États-Unis puisque son mandat n'était pas renouvelé. Donc il s'est installé quelques mois à La Havane avant de retourner aux États-Unis. Et il a écrit un poème dont je vais vous lire la traduction toujours d'Alain Astro, je pense. Le vieux Galicien demande : vous êtes juif ? Certes, puisqu'il en est ainsi. Sauriez-vous peut-être qui je suis ? Juif ou gentil ? Ma femme catholique me maudit parce que je descends des Maranes. Je vais rarement à la messe, alors elle me dit, c'est pour cela, à cause de tes péchés, maudite infidèle, que notre fille ne se marie pas. Elle me gâche la vie, cette femme à moi, qui ne fait que se mettre à genoux devant les idoles. Qu'êtes-vous devenu, dites, qu'êtes-vous devenu, vous autres juifs ? Vous ne craignez pas Dieu, ni les inquisiteurs, qui pourraient vous surprendre dans vos caves ? Vos caves ? Quelles caves ? Le jour est clair et la synagogue spacieuse. Pour ma part, je ressens encore la peur, je rêve la nuit d'auto-da-fé. On me mène au feu. Voilà, donc, les souvenirs de l'Inquisition et peut-être aussi... Ensuite, il y a tout un chapitre consacré à Carlos Grünberg, un auteur effectivement tout à fait inconnu et dont Alain Astro veut absolument qu'on le reconnaisse. Donc c'est une étude assez savante sur un auteur qui a écrit en espagnol, mais avec des tas de thèmes juifs. Il a appelé son chapitre Carlos Grünberg et la circoncision de la langue. Et il commence d'ailleurs tout le chapitre en se demandant comment on prononce ce mot Grünberg. Alors ce Grünberg, c'est le U avec tréma allemand, donc le son U qui existe effectivement en allemand, mais qui n'existe pas ni en yiddish, ni en espagnol. Mm-hmm. Donc, comment prononcer Grünberg ? Donc, il y a Grünberg, il y a Greenberg, il y a Grunberg, voilà, et il y a tout un développement là-dessus, plus un développement sur l'auteur lui-même, dont je ne vais pas parler. Ensuite, il y a un chapitre sur Borges et le yiddish. Là aussi, il s'interroge sur les liens de Borges avec le yiddish. Il a relevé tous les passages où Borges parle du yiddish. Ah oui. Donc, je vais vous en citer un. Chaque fois que je traverse un carrefour dans le quartier sud, je pense à vous, Hélène. Chaque fois que l'air m'apporte un parfum d'eucalyptus, je pense à Adrogué, à mon enfance. Chaque fois que j'entends un germanophile déblatérer contre le yiddish, je réfléchis que le yiddish est avant tout un dialecte allemand à peine contaminé par la langue de l'Esprit Saint. Voilà, donc le yiddish aurait constitué pour Borges un objet de rêverie privilégiée, au même titre qu'au moment de nostalgie amoureuse ou d'un souvenir d'enfance. Alors, il rappelle aussi que Borges, qui s'intéressait évidemment à tout, avait lu la Kabbale, avait lu les versions anglaises et allemandes du Zohar, donc le livre de la splendeur, et du Sefer HaYetzira, le livre des relations. Donc ça, c'est des... Oui, c'est pas le livre des relations, c'est le livre de la création. Mais Borges écrit le livre des relations. Donc ça, c'est des livres kabbalistiques. Et il a aussi lu Buber, qui lui écrit en allemand. Il a traduit Buber. Et il dit que le yiddish n'est nullement un simple dialecte, mais plutôt une res sui generis, idiome populaire. À l'origine, il s'est développé jusqu'à devenir une langue à part entière. Sans être précisément riche, il est souple, moins abstrait, mais plus chaleureux que l'hébreu qu'il complète. S'il n'a pas le pathos purement spirituel de ce dernier, il est rempli d'accents incomparablement plus doux et plus crus, plus tendres et plus coléreux. Donc ça, c'est la traduction de Buber par Borges, retraduite en français par Alan Astro. Mmh. Et ensuite, il se pose la question, ça c'est une anecdote, donc dans un de ses textes, Borges parle des Yiddish Zeitung. Il dit qu'il a été appelé par le rédacteur de Yiddish Zeitung. Et Alan Astro se demande qui c'est. Donc il y a tout un développement sur ce thème et sur les hypothèses de Yitzhak Niborski. Voilà, mais je crois que notre émission touche à sa fin, donc oui. Je ne vais pas vous présenter tout cela.
Beaucoup à dire.
Il y aurait encore une troisième émission à faire, mais je crois qu'on ne va pas la faire.
Bon, alors on va juste annoncer rapidement. Vous savez qu'en ce moment, c'est la pause des Stolperstein. Il y en a eu lundi 9 et à nouveau lundi 16, lundi prochain. Donc il y en a quasiment toutes les heures de la journée. Il y en a, je ne sais pas, 6, 7, 8, rien dans la journée de lundi. Mais nous, avec la chorale Lomirzingen, nous participons à celle qui sera posée à 18h au 7 rue du Maréchal Juin, autour du grand-père et de la tante de Muriel Klein-Zolti, qui est membre de notre chorale. Donc, 18h, 7 rue du Maréchal Juin. Et Muriel va retracer la vie de ce grand-père essentiellement. Et nous allons illustrer ses propos par plusieurs chants en yiddish. Ben voilà, on va se quitter sur ces mots bien tristes, mais c'est bien que cette association Stolperstein 67 soit aussi active et toutes ces pierres devaient être posées déjà depuis longtemps, mais il y a eu le confinement et c'est maintenant que ça se fait. Du coup, c'est très serré dans le temps, mais c'est bien parce que les gens peuvent aller, s'ils le veulent, de l'une à l'autre. Quoi. Elles sont distantes d'une heure à peu près chaque fois. Et puis, tout Strasbourg n'étant pas si grand, on peut bien se rendre d'un endroit à un autre.
Voilà, ben on vous dit shalom aleichem.
Merci Robin et bis zum nächsten Mal.
Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.